La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous et merci d'être là pour une nouvelle semaine de la Compagnie des auteurs. Il y sera question d'une littérature tout à fait originale, même si elle n'est pas sans racines. Une écriture au sein de laquelle le lecteur vit de manière inédite l'expérience de ce que décrit l'auteur et se perd dans la contemplation et la rêverie inquiète d'une méditation dont la guerre constitue la toile de fond. Nous parlons donc cette semaine de l'œuvre de Claude Simon. Nous le ferons demain avec Alastair Duncan qui a édité son œuvre dans la bibliothèque de la Pléiade et avec qui nous ferons un parcours de cette œuvre, laquelle commence véritablement en 1957 avec le roman Le Vent et prend toute son ampleur avec La Route des Flandres 3 années plus tard. Mercredi, Dominique Viard nous parlera de la question de l'autobiographie et également du thème proustien de la mémoire chez Claude Simon. Enfin jeudi, Guy Scarpetta sera avec nous pour évoquer deux grands moments de la dernière période, le roman des Géorgiques ainsi que l'Acacia. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Claude Simon, nous sommes avec Mireille Kalgruber, spécialiste de Michel Butor ou encore de Pascal Quignard, à qui elle vient de consacrer l'essai Pascal Quignard ou les leçons de ténèbres de la littérature aux éditions Galilée. Elle est l'auteur de la biographie de référence consacrée à Claude Simon et sous-titrée Une vie à écrire aux éditions du Seuil en 2011. Mais on lui doit aussi le livre Le Grand Temps, essai sur l'œuvre de Claude Simon aux éditions du Septentrion. Elle a été chargée également par Simon de veiller sur son œuvre dont elle est aujourd'hui l'ayant droit moral. On peut donc dire qu'elle détient entre ses mains à la fois l'œuvre et la vie aussi de l'écrivain, cette vie dont il serait vain de rechercher le sens. Écoutez.
J'ai connu la faim, le travail physique jusqu'à l'épuisement. Je me suis évadé, j'étais gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou naturelle. J'ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires d'église, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés. J'ai partagé mon pain avec des truands. Enfin, j'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et cependant, je n'ai jamais encore, à 74 ans, découvert aucun sens à tout cela, si ce n'est, comme l'a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que si le monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien, sauf qu'il est.
Claude Simon, lisant un extrait de son discours de Stockholm au micro d'Alain Weinstein en 1988. Bonjour Mireille Kalgruber. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer cette vie de Claude Simon. Une vie terriblement agitée, marquée par la guerre, on va le voir, mais plus encore peut-être marquée par les deuils de l'enfance. Et cela jusque dans son nom, parce que Claude Simon prend en effet, à la naissance, on pourrait dire la place d'un mort.
La place d'un frère, en effet, qui est mort quelque temps avant et qui s'appelait comme lui. Donc effectivement, il a toujours eu la sensation d'être pas à sa place. Il parlait de lui comme d'une personne déplacée. Et c'est vrai que ce fut le premier deuil, disons, avant même sa naissance, mais qu'ensuite il a été, c'est plus que deuil, je dirais que c'est la mort qui a sans cesse marqué les 30 premières années de sa vie, on peut même dire, puisque il a grandi en absence de son père qui est mort alors qu'il avait 9 mois à peu près, donc on peut dire qu'il l'a pratiquement pas connu. Et ce père était idolâtré par la famille, aussi bien par la mère que par les sœurs. Donc il avait aussi la sensation d'être là un peu comme un substitut ou comme celui qui était survivant. Je crois que c'est le mot de survivant qui conviendrait le mieux pour marquer ce complexe qu'il a eu vis-à-vis de la place qu'il n'occupait pas vraiment ou qu'il aurait dû occuper. Et puis ensuite, il a vu sa mère dépérir également d'un cancer alors qu'elle est morte quand il avait à peine 12 ans. Donc on peut dire que déjà dans sa petite enfance, il a été extrêmement marqué par des scènes de deuil et de tristesse qui l'ont rendu lui-même, disons, très pensif, très mélancolique.
Oui, parce que c'est difficile d'être un survivant. Et vous dites, Mireille Kahlgruber, qu'être un survivant, ça vous oblige. Et en quoi est-ce que lui, ça l'obligeait ?
Alors, obligé au sens classique du terme, c'est-à-dire ça rend responsable et ça rend redevable. Redevable vis-à-vis de ceux qui ne sont pas là, coupable aussi. Il y a un grand sentiment de culpabilité qui s'est accru d'ailleurs parce que ça a continué d'une certaine manière lorsqu'il est allé sur la route des Flandres, donc à la guerre, alors que presque tous en régiment a été tué par une raison tout à fait banale, c'est-à-dire que son étrier s'est retourné et qu'il donc il est tombé pendant que les autres montaient à cheval. Il s'est retrouvé un des rares survivants. Donc là encore, étant celui qui voyait mourir les autres et qui lui arrivait à survivre, ça a été pareil lorsque sa femme s'est suicidée, sa première femme s'est suicidée. Il ne cessait de le poser la question pourquoi elle morte, moi vivant et il a fait lui-même une tentative de suicide. Enfin, il a sans cesse été, disons, rattrapé par la mort. Je crois que ce qui est très marquant dans cette vie, c'est qu'il y a à la fois le sentiment d'un temps court, le temps de la vie arrachée à la mort, et puis le temps long qui est celui de l'écriture et qui sera la seule manière de survivance au fond, parce que c'est la seule manière de vraiment vivre les moments, des moments qui passent trop vite et que on ne comprend pleinement ou on ne ressent pleinement que lorsqu'on les écrit, qu'on est à sa table et qu'on les remâche, qu'on les reprend toute une vie.
C'est vous qui avez retrouvé l'existence de ce petit frère qui s'appelait Claude et qui est mort avant lui, parce qu'il n'y avait pas dans les archives de Madagascar où est né Claude Simon, où son père était en poste. Vous allez peut-être nous dire pourquoi et dans quelles circonstances, et qui étaient un petit peu les parents aussi de Claude Simon. Donc c'est vous qui avez découvert ça ?
Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup d'archives, de manuscrits, de carnets. Claude Simon est quelqu'un qui écrivait tout le temps. Et il écrivait pour lui-même, il écrivait, il réécrivait sans arrêt. Il prenait des notes pour des travaux, mais également d'abord des notes pour lui, pour marquer des choses qui lui importaient ou qui le frappaient. Parce que, vous l'aurez noté bien sûr, quand il écrit, il essaie toujours de faire revivre des émotions. La vie pour lui c'est le vécu, ce qu'il appelle le vécu, c'est-à-dire la vie passée par les émotions, par les sensations, par les angoisses, par tout ce qui fait la subjectivité de quelqu'un.
D'ailleurs il dira de ses livres qu'ils sont à base de vécu.
Ils sont à base de vécu, voilà. Donc et c'est ça qu'il essaie toujours de faire renaître. Donc il prend des notes, je me suis aperçue qu'il prenait des notes pour avoir des points de repère, pour faire revivre en lui, comme il dit à Merleau-Ponty, il faut que je l'excite de nouveau, cette personne que j'ai été, que je l'excite, que je la réveille en moi pour écrire, pour faire passer les sensations que j'ai eues quelquefois il y a 20 ans. Puisque, par exemple, lorsqu'il écrit La route des Flandres, il écrit 20 ans après l'avoir vécu. C'est quelqu'un qui n'écrit pas tout de suite, définitivement. Parce qu'il cherche une forme, il cherche la forme adéquate et il n'est pas du tout du genre à écrire comme ça, de but en blanc, spontanément. Il ne croit pas en la spontanéité de l'écriture.
L'écriture surgit au moment de l'écriture, précisément.
Oui, et puis la vie surgit au moment de l'écriture, en fait. Le vécu ressurgit au moment de l'écriture.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les parents de Claude Simon ?
Alors, lui-même en a très très bien parlé, il en a fait toute une saga, on peut dire, puisqu'il a retrouvé lui aussi, ce qui est très beau chez lui, c'est qu'il travaille toujours sur archives, ou sur traces, ou sur des éléments qu'il a retrouvés, ou plus ou moins par hasard. Et donc ses parents, c'est avant tout des cartes postales que le père envoie à la mère, puisque, étant donné qu'il est de deux familles un peu opposées, socialement parlant, une mère qui est de petite aristocratie, disons la petite noblesse de province, qui est très croyante, plutôt militaire, très traditionnelle. Et puis de l'autre côté, et donc assez aisée, c'est une bourgeoisie aisée de Perpignan, donc du sud de la France, avec des ancêtres qui viennent du côté de l'ouest, plutôt du sud-ouest. Et puis de l'autre côté, du côté du père, alors c'est le nord, en somme, c'est Arbois, le Jura. Et là, c'est une famille de paysans, athées. Donc on a vraiment les opposés. Or, il a toujours été... Bon, il a été élevé surtout par la famille maternelle, mais en réalité, il a toujours été très attiré par la famille paternelle et par les sœurs de son père, qui étaient des demoiselles qui ne s'étaient jamais mariées, des institutrices qui se sont complètement dévouées à leur frère pour qu'il obtienne, pour qu'il puisse faire l'école de Saint-Cyr et qu'il puisse sortir comme officier.
Et donc, ensuite, qui se dévoueront
ensuite à lui, puisque évidemment, le frère mourant, le fils du frère devient vraiment l'idole, et elles ont vraiment été d'un amour complètement plein d'abnégation pour lui.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Claude Simon. Avec vous, Mireille Kahlgruber, vous venez de parler de sa famille maternelle, cultivée sans être intellectuelle, mais qui se sauve, dites-vous, du snobisme par sa passion de la musique. Ça, c'est aussi important, parce que Claude Simon est la musique de la littérature, on le verra cette semaine, ça n'est pas sans importance. Et sa mère, qui ne souhaitait pas au départ, va envoyer son fils. On se rappelle que donc, il est déjà orphelin de père depuis quasiment toujours, il n'a quasiment pas connu son père, va envoyer son fils à Stanislas parce qu'elle se rend compte qu'elle-même va mourir parce qu'elle est très malade. Et donc là, c'est le départ finalement de l'enfant pour Paris.
De la province vers Paris.
Il ne reverra plus sa mère.
Pratiquement pas, effectivement, puisque en fait, elle l'éloigne parce qu'elle sait qu'elle va mourir, elle ne veut pas qu'il assiste à la mort. Déjà, il y a des photos, il y a cette photo absolument poignante où on voit sa mère... pratiquement exsangue sur cette méridienne, et l'enfant à côté d'elle qui lui tient la main. Donc elle a voulu absolument qu'il soit épargné, disons, par cette vision de la mort, quoiqu'il va en faire des tableaux terribles dans les derniers livres de cette mourante.
Il la compare à un oiseau.
Un oiseau avec un bec, enfin il est décharné, et enfin il a toujours eu une fascination en même temps qu'une horreur, évidemment, de tout ce qui était mortuaire et cadavérique. Et donc, effectivement, mais je pense que c'est plus que ça. Je crois qu'elle a vraiment eu l'intuition que, quelque part, il fallait le sortir de la vie provinciale et lui donner la possibilité d'étudier.
Et en même temps, c'est difficile, Stanislas, pour
C'est très
Claude
difficile
Simon.
Pour lui, parce qu'il a eu l'habitude d'une forme de liberté, même si sa mère était, semble-t-il, assez terrible. Elle était extrêmement autoritaire et extrêmement en conflit avec lui. Comme si elle voulait à la fois représenter le père qui était absent et puis elle-même. Donc, mais c'est vrai qu'il a... Alors, il dit qu'il a souffert à Stanislas et en même temps, il pense qu'il a quand même eu une culture, il a reçu une éducation qu'il n'aurait pas eu autrement. Donc, je crois que, au fond, ça a été une période assez bénéfique également parce qu'il y avait la présence de son tuteur, puisqu'elle l'avait confié, sachant qu'elle allait mourir, elle l'avait confié à un cousin, qui lui, par contre, était extrêmement ludique, cultivé, libertaire, et donc qui a donné à Claude Simon, alors c'était assez étonnant, parce que au collège, toute la semaine, il était vraiment sous la férule des pères, mais pendant le week-end, il allait au théâtre, il allait écouter des concerts, et donc c'était une vie complètement contrastée.
Et puis il était attiré davantage que par... les disciplines académiques, par les beaux-arts, la peinture aussi, la photographie, la littérature évidemment, le cinéma. Et au départ, c'est quand même la peinture qui l'intéresse le plus. D'ailleurs, vous le décrivez comme un étudiant en cubisme, c'est aussi la période.
Alors c'est lui qui dit qu'il est un étudiant en cubisme, en effet.
Il y a tout un chapitre que vous intitulez comme ça.
Oui, oui, puisqu'il va fréquenter l'atelier de André Lhote, qui est donc un disciple du cubisme, mais en même temps il va fustiger complètement tout ce qui est précisément épigone du cubisme. Le seul cubiste qu'il révère, c'est Picasso, évidemment.
Et Braque peut-être quand même.
Comment ?
Et Braque peut-être quand même.
Beaucoup moins, il n'en dit pas tellement de bien non plus. Non, il n'y a que Picasso qui trouve, grâce à ses yeux, parce qu'il y a ce cubisme qu'il appelle synthétique, où on a véritablement une pluralité de, une création, une pluralité de figuration qui n'est pas géométrique et figée, qu'il oppose, lui, aux formes, par exemple, des nus féminins, de tout ce qui est charnel, tout ce qui est sensoriel. Pour lui, c'est ça qui importe, c'est la sensorialité, c'est ce qu'il cherche dans les couleurs. C'est les couleurs, avant tout, hein, qu'il travaille dans la peinture.
Oui, ce qui aurait pu l'amener plutôt du côté de Matisse, bon, mais ça, c'est une autre histoire.
Il peignait un peu comme Matisse, d'ailleurs.
Alors, justement, donc, il a un atelier près de la porte de Champéret. Est-ce que, pour vous, c'est une vocation ratée, finalement, la peinture, pour Claude Simon ?
Je dirais pas qu'elle est ratée, puisqu'il est devenu un écrivain magnifique, et lui-même, mais je crois qu'on sous-estime cette période de la peinture, parce qu'il a quand même été peint pendant plus de 20 ans, puisque dès que, effectivement, il sort de Stanislas, il aurait dû faire du droit, mais il s'inscrit, il n'a jamais mis les pieds à l'université, et donc il a tout de suite été faire de la peinture, parce que c'était, vous disiez tout à l'heure, sa famille était cultivée, surtout pour la musique. La seule chose que la famille ne comprenait pas, dit-il, c'est la peinture. Donc il est allé vers ceux qui n'avaient pas été justement touchés par le domaine familial. Et je crois qu'il a vraiment eu énormément de plaisir. Vous savez qu'il a dit à un moment qu'il aurait préféré être peintre ou jockey plutôt qu'écrivain. Et pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est ce qui lui aurait donné une joie totale et absolue.
La rencontre avec Proust, par exemple, quand j'avais 20 ans, avec Joyce et Faulkner plus tard, ont été pour moi des rencontres extrêmement importantes. J'ai appris à écrire, je peux dire, dans Joyce, dans Faulkner, et dans Faulkner.
Tchekhov aussi.
Ah, Tchekhov, j'aime énormément Tchekhov, oui, beaucoup. Dostoïevski, alors là, si nous élargissons, mais enfin, c'est tout de même, ce serait difficile, en quelques mots, de dire tout ce qui sépare un écrivain du 19e de cette véritable cassure qui s'est produite dans le roman vers 1913 et dans la peinture vers 1913. C'est à ce moment-là que les cubistes sont passés du cubisme analytique au cubisme synthétique. C'est à ce moment-là que Joyce a commencé à écrire Ulysse. C'est à ce moment-là que Proust écrivait, je crois, du côté de chez Swann, où Albertine disparu. C'est une époque extrêmement importante.
La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors c'est également à cette même époque, peut-être la fin de Stanislas, qu'il découvre réellement la littérature, Mireille Kalgruber.
Oui, il lit Ulysse, qu'un ami lui passe parce qu'il n'arrive pas à le lire, et lui il est tout de suite emballé. Ce qui est assez extraordinaire chez Claude Simon, c'est sa permanence, comme disait Merleau-Ponty. C'est-à-dire que dès, il sait très bien ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime. Et il aura toujours les mêmes goûts au fond, mais il va les travailler autrement, il va s'en rendre compte autrement, il va creuser, mais c'est impressionnant, vraiment, comme un jeune homme de 20, 22, 23 ans, qui sort quand même d'une formation très très classique, s'ouvre immédiatement à des choses complètement iconoclastes à l'époque. Et on parlait tout à l'heure de peinture, il y a une leçon qu'il va retenir de la peinture, c'est celle que va lui donner Dufy. Il faut savoir abandonner le tableau qu'on voulait faire pour le tableau qui se fait.
Et c'est comme ça qu'il ne sait pas en fait ce qu'il va écrire. C'est un peu comme Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve ».
Oui,
il y a
ça.
Quelque chose presque de similaire.
Mais c'est à cause de Picasso finalement qu'il ne restera pas dans la peinture, parce qu'il dit après Picasso tout ce qu'on fait elle est ridicule.
Oui. Alors, il y a le cinéma qu'il regarde, et les films de Buñuel, c'est son premier grand choc esthétique. C'est presque un choc même littéraire, d'une certaine façon, parce que ça va lui donner envie d'écrire.
C'est le côté muet qui est très intéressant, en effet. Ce cinéma muet, il s'aperçoit tout à coup que le fait qu'on n'entende pas les paroles permet d'imaginer des tas de choses différentes. Qu'avec le même geste, on peut interpréter un geste d'amour, un geste de haine, un geste violent, un geste tendre. Et c'est ce qu'il va effectivement faire travailler dans les dialogues qu'il écrit dans ses romans. Ou bien souvent, ce sont des dialogues à trous, n'est-ce pas ? Où on n'a que l'armature de la phrase, et puis le reste est en pointillé, et à partir de là, tout est possible, tout est à creuser différemment, tout peut se retourner, et c'est cette incertitude, le côté invisible, le côté incertain, le côté questionnant entre les êtres qui je crois, est particulièrement impressionnant chez lui, fascinant.
C'est ça qu'il retrouve aussi dans la photographie. Vous reproduisez d'ailleurs quelques photos dans votre biographie qu'il a prises.
Dans la photographie, il dit, ce qui le fascine, c'est que la photo, l'appareil a vu ce que lui n'avait pas forcément vu. Et qu'il découvre en chambre noire. Et ça, c'est extraordinaire parce que je pense que c'est exactement la même chose qu'il cherche quand il écrit. Il écrit, il le dit lui-même, il écrit de plus en plus sans sujet, sans vouloir raconter une histoire. Il dit, un jour j'ai enfin compris que écrire c'était pas raconter une histoire. Et c'était chercher justement quelque chose qui cherche à se dire à travers la langue. C'est le travail de la langue qui fait surgir des personnages, des souvenirs, des impressions.
Et déjà on s'approche un peu du nouveau roman, on va en parler cette semaine et puis aussi un peu plus tard dans cette émission. Mais restons encore un moment dans la jeunesse de Claude Simon, qui est un jeune homme pas tout à fait lyrique, mais comme tous les jeunes gens, un petit peu forcément. Et puis c'est l'époque aussi de la montée des périls un peu partout dans les années 30, et notamment évidemment en Espagne. Alors pourquoi va-t-il en Espagne? Combien de temps y reste-t-il? Et est-ce qu'on peut dire Mireille Kallgruber qui le s'est engagé véritablement aux côtés des Républicains, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça?
C'est un petit peu plus compliqué que ça et un petit peu moins engagé que cela, mais c'est très fort en effet. C'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose de lyrique, quelque chose d'entier aussi chez lui, et notamment du côté de... C'est quelqu'un de très généreux, de très proche des gens, bien qu'il soit assez réservé, et donc il est particulièrement proche des pêcheurs. Des pêcheurs de Collioure, de Port-Vendres, et il va faire partie de la cellule communiste de Collioure, en fait, avec ses amis pêcheurs. Et c'est avec eux qu'il part à Barcelone, puisque le pêcheur, donc Louis Montargès, qui est pris en photo avec lui à ce moment-là d'ailleurs, doit faire une mission là-bas. Et là, il découvre, il est complètement bouleversé, il dira que ça a été un choc dans sa vie, parce qu'il découvre une ville qui est aux mains des anarchistes.
Donc c'est une révolution en fait qu'il est en train d'observer.
Absolument.
Davantage qu'une guerre.
C'est une révolution, c'est pas du tout la guerre. Et il dit, mais c'est extraordinaire parce que toutes les choses d'aliénation que j'ai lues chez Marx, elles ont disparu. C'est la pagaille complète.
C'est la fin de la propriété.
La fin de la propriété. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de classe sociale, plus rien. Et c'est complètement fou, donc il est absolument fasciné. Mais aussi, il a tout de suite le sentiment que ça ne pourra pas durer. Et que donc ils vont à leur perte. Donc il a déjà cette sorte de partage, mais il est très très lucide en fait. Et c'est ce qu'on va retrouver après dans Le Palace.
Voilà, Le Palace, le grand roman. Alors on dit pas que c'est la guerre d'Espagne dans Le Palace, mais enfin en réalité c'est son expérience.
En filigrane, c'est son expérience, puisque en fait tous ses livres sont à base de vécu et donc à base de son expérience. Et là c'est vrai que il revient donc avec Montargès et il va être ensuite il va aider disons à une livraison d'armes pour justement les républicains espagnols, mais c'est tout, il n'a pas plus d'engagement que cela. Par contre, il va aider les réfugiés, quand les réfugiés espagnols viendront en Catalogne du Nord, donc en France, il va en aider plusieurs, notamment dans le domaine des arts, à être reçus chez les gens, à trouver des places, enfin, il a été très proche d'eux.
En fait, c'est pas quelqu'un qui est chargé d'une idéologie qui serait une idéologie, par exemple, de gauche. C'est plutôt quelqu'un qui est très en empathie avec la souffrance humaine, et c'est ça qui le guide politiquement.
Absolument. Il a pas. Je dirais que le politique pour lui, c'est ça. C'est le rapport à l'autre. C'est l'empathie. C'est la générosité. C'est le fait de. D'un désir d'égalité entre les gens, d'un désir de vivre ensemble, on dirait aujourd'hui. C'est très très fort.
Alors après cet épisode espagnol, il y a un voyage dans toute l'Europe en 1937 avec son ami Alfred Cassou, sur lequel on n'a pas tellement le temps de s'attarder, puisque déjà c'est le moment de la drôle de guerre, et lui, il va vivre la débâcle de 40 de l'intérieur. Vous l'avez déjà un petit peu raconté au début de cette émission, l'anéantissement de son escadron de cavalerie sur la route des Flandres, dont il sortira vivant, vous l'avez dit, par hasard, et c'est une expérience qui est impossible à restituer, mais c'est justement pour essayer de restituer cette expérience impossible à raconter qu'il va inventer un style d'écriture très particulier. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de son grand roman La Route des Flandres.
ce qui avait été un cheval, c'est-à-dire ce qu'on savait, ce qu'on pouvait reconnaître, identifier comme ayant été un cheval, n'était plus à présent qu'un vague tas de membres, de cornes, de cuir et de poils collés, aux trois quarts recouverts de boue. Georges se demandant, sans exactement se le demander, c'est-à-dire constatant avec cette sorte d'étonnement paisible, ou plutôt émoussé, usé, et même presque complètement atrophié par ces 10 jours au cours desquels il avait peu à peu cessé de s'étonner, abandonné une fois pour toutes cette position de l'esprit qui consiste à chercher une cause ou une explication logique à ce que l'on voit ou ce qui vous arrive. Donc, ne se demandant pas comment, constatant seulement que, quoi qu'il n'eût pas plu depuis longtemps, du moins à sa connaissance, le cheval, ou plutôt ce qui avait été un cheval, était presque entièrement recouvert, comme si on l'avait trempé dans un bol de café au lait, puis retiré, d'une boue liquide et gris beige, déjà à moitié absorbée, semblait-il, par la terre, comme si celle-ci avait déjà sournoisement commencé à reprendre possession de ce qui était issu d'elle.
Donc ça, Mireille Kahlgruber, c'est l'expérience autour de laquelle, avec les deuils dont on a parlé aussi en début d'émission, toute l'œuvre va tourner jusqu'à la fin.
C'est le premier, oui, grand livre de lui, bien que ceux d'avant sont fort bien aussi. Mais c'est vrai que c'est un livre qui, vous savez, qu'il a mis 20 ans à écrire. C'est-à-dire qu'il a essayé, moi j'ai vu les manuscrits.
Il l'a porté en lui, il l'a cessé de l'écrire
mais
pendant 20 ans.
Il avait toujours peur de se payer de mots. Ça, c'est quelque chose de très fort. Claude Simon est quelqu'un de très intègre et de très. Il avait toujours peur de tomber dans les discours de circonstance, les phrases toutes faites, les consensus. Et donc, on peut dire que cette proximité de la mort qu'il a toujours eue fait qu'il a toujours voulu être lucide et clairvoyant et ne pas se consoler avec des manières de parler ou de penser. Et donc, ce livre qu'il a porté 20 ans. Il dit que tout à coup, il lui est apparu...
Tout d'un bloc, d'une certaine façon.
C'est ça, comme un tableau. C'était un tableau, avec un montage. C'est-à-dire qu'il découvre la possibilité d'écrire du biographique, ce qui ne soit pas chronologique. Je crois que le gros problème, c'est ça. C'est l'expérience vécue, c'est quand même du chronologique, mais il y a le vécu qui est au contraire du sensationnel, de l'impression, et donc il faut arriver à lier les deux. Et ce qu'il découvre, c'est qu'en fait, il faut faire des montages, des collages, des assemblages, pour recréer ces moments de surprise très violents, ces moments d'impression et de sensation qui ne sont absolument pas logiques, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'analogie ou de la dissemblance.
Et ces moments, ils ne manquent pas, puisque après l'épisode de la drôle de guerre, immédiatement après, il est arrêté en tant que prisonnier, et puis il va réussir à s'évader en se faisant passer pour un malgache d'origine. Il est transféré en France et puis il va rejoindre sa ville de Perpignan où là, il va s'adonner à des activités pour la résistance, ce qui fait que la milice le menace et donc il part à Paris où il sera encore de nouveau un peu résistant. À quoi ressemblent ces années-là, Mireille Kahlgruber?
Ce sont des années, de toute façon, toutes ces années sont des années d'une jeunesse sacrifiée. Il en a très fort le sentiment.
Très intense, un apprentissage qui est formidable, quoique sinistre.
Oui, c'est des apprentissages quand on en sort. Et après, comme il dit, je m'en suis sorti, c'est extraordinaire. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on se rend compte combien, chez lui, la vitalité, il a toujours été du côté du vivant. Et quand je dis vivant, c'est pas la vie, c'est vraiment la nature, les animaux. Par exemple, il dira faire la guerre avec des chevaux, parce que lui, donc, il était dans la cavalerie, c'est pas la même chose qu'avec des armes. Il y a du vivant, il faut le mettre à l'abri, il faut mettre le cheval à l'abri, il faut lui donner à manger, il faut... Donc, tout ce côté-là fait que même la guerre, pour lui, n'a pas été aussi dramatique. Et puis, il y a cette vitalité incroyable. Quand il sort du wagon, alors qu'ils ont été prisonniers, ils ont traversé une partie de l'Europe en wagon. Et quand il sort du wagon, qu'il voit la beauté du paysage, ben dans ses carnets, il commence à écrire que c'est merveilleux, ce qui est extraordinaire.
C'est presque comme si ça suffisait d'observer le monde, peut-être pas pour être heureux, je ne sais pas si la question du bonheur se pose comme ça chez Claude Simon, mais en tous les cas pour être émerveillé. Le monde est merveilleux pour Claude Simon.
Oui, c'est pas du bonheur, c'est plutôt de la jouissance. C'est pas du bonheur parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop mélancolique et qui a toujours eu un fond de tristesse vraiment... très personnel, mais mélancolique, oui, mais dans la mélancolie il y a à la fois la capacité de s'émerveiller et la capacité d'être terriblement triste, il pouvait être les deux à la fois.
On laisse Claude Simon pendant quelques minutes, on le retrouvera au moment où il va véritablement devenir écrivain, juste après la chronique de Tiphaine Samoyo.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tiphaine Samoyo de la revue en ligne En attendant Nadeau.fr. Bonjour Tiphaine.
Bonjour Mathieu.
Un mot sur Claude Simon, peut-être pour commencer, que je crois vous aimez bien en tant qu'écrivain.
Oui, je l'aime énormément et je trouve qu'il a beaucoup changé pour nous par rapport aux premières fois où j'ai pu le lire, où on était tellement frappé par ses audaces formelles, où on le rattachait vraiment à l'avant-garde littéraire et où on a compris depuis, en tout cas moi je l'ai compris, mais en vous entendant Mireille Kalgruber, je vois que je suis pas la seule, l'extraordinaire puissance de témoignage qu'avait cette œuvre pour l'histoire du XXe siècle. Et cette capacité d'abord à écrire le traumatisme, de manière, parce qu'il y en a quand même eu un, vous l'avez dit, le fait d'être le seul survivant pratiquement de, voilà, et puis d'une absurdité de la guerre, de cette guerre-là, à ce moment-là, qui répétait exactement la guerre où son père était mort, pratiquement à la même date. Enfin, il y a quelque chose de, voilà, il témoigne pour cela, et puis aussi il témoigne de, ce qu'on ne peut pas décrire, des expériences complètement inédites avec les mots d'autrefois ou les mots d'autrui, qu'il faut à chaque fois inventer une nouvelle langue pour dire une réalité différente et pour en dire la violence et la force. Donc ça, je trouve que c'est une œuvre qui serait vraiment... c'est impossible de seulement la rattacher au nouveau roman. C'est vraiment une des grandes œuvres de témoignage de l'histoire du XXe siècle.
Alors justement, l'histoire et la littérature, c'est ce qui va vous intéresser aujourd'hui dans votre chronique, l'histoire et le traumatisme aussi, avec ce livre qui vient de paraître de l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes, Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau, et dont votre collaborateur Norbert Czarny fait une recension dans En attendant Nadeau.
Oui, j'ai pensé à évoquer ce livre d'abord parce que nous l'avons mis en une de notre numéro actuel, mais aussi parce que c'est une œuvre qui a des points communs avec celle de Claude Simon et qui doit sans doute beaucoup aussi à celle de Claude Simon. C'est une œuvre qui, comme lui, comme la sienne, ressasse perpétuellement le même traumatisme et qui cette fois est celui de la guerre que le Portugal mène, la guerre coloniale que le Portugal mène contre l'Angola dans les années 70 et où Lobo Antunes se retrouve comme médecin des armées, enfin médecin militaire. Et donc à partir de son grand chef-d'œuvre, Le cul de Judas, il ne cesse de revenir sur la violence à laquelle il a, malgré lui, dû participer. Et donc cet énième livre, ça fait très longtemps que Lobo Antunes nous dit que son livre va être le dernier livre. Là, il nous assure que ça va être le dernier, mais on espère que non. Mais il ressasse la même chose, parce que, comme chez Claude Simon, on n'en a jamais fini de dire cette violence, de dire la vérité de l'histoire. Et comme chez lui aussi, ça a lieu à la fois dans la mémoire, donc dans un entremêlement du passé, du présent, dans l'idée que voilà, mémoire et histoire sont indissociables, qu'on ne peut pas dissocier l'histoire de la mémoire qui l'a vécue et qui l'a expérimentée.
Histoire et mémoire, c'est aussi le sujet du dernier essai de Judith Lioncamp, dont vous parlez aussi dans En attendant Nadeau.
Oui, c'est un livre qui rouvre le débat des rapports entre littérature et histoire. Alors, on peut penser au livre d'Yvan Jablonka, L'histoire est une littérature contemporaine, qui essaye de verser l'histoire du côté de la littérature. Le parti de Judith Lioncamp est davantage de verser la littérature du côté de l'histoire. C'est un parti pris très fort qu'elle a.
Que votre chroniqueur ne semble pas tout à fait soutenir.
Non, il ne le soutient pas parce que il estime que les collaborations sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus nombreuses que celles qu'elle veut bien examiner. Mais néanmoins, ça reste quand même des disciplines qui bien sûr ont des choses à se dire, mais qui ont aussi des conflits. Donc c'est important que ce livre en témoigne à sa façon.
Merci beaucoup, Tiphaine Samoyau. Tout cela et bien davantage, c'est sur le site enattendantnado.fr. À très bientôt. C'est la suite de la Compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture en compagnie de Mireille Kai-Gruber pour évoquer la vie de Claude Simon et la manière dont il est devenu écrivain. Il l'avait raconté à Alain Weinstein, c'était en février 1988.
Je n'ai jamais eu une vocation d'écrivain, comme on dit, comme les vocations de prêtre ou les vocations d'autres métiers. Quand on est jeune, on essaie un tas de choses. J'ai joué un peu naïvement aux révolutionnaires pendant ma jeunesse, j'ai fait de la peinture, et puis j'ai écrit, et puis il s'est trouvé que pendant la guerre, j'ai rencontré un éditeur qui était juif et qui était dans la maison, était fermé, et il m'avait acheté de la peinture, et il m'a dit « qu'est-ce que vous faites autrement ?» Je lui ai dit « j'ai écrit un roman, mais je l'ai mis dans un fond de tiroir ». Il m'a dit « ça m'intéresserait », je lui ai donné. Il m'a dit « ça m'intéresse toujours beaucoup ». Et seulement notre maison, c'était le Sagittaire, et il était associé à Léon Pierquin, ils étaient juifs tous les deux. La maison a été saisie par les Allemands. Il m'a dit « est-ce que vous permettez qu'on attende la fin de la guerre pour le publier ?» J'ai dit « mais absolument, je ne concevais pas qu'on puisse publier quelque chose en France sous l'occupation allemande ».
Ce livre, c'était « Le Tricheur ».
« Le Tricheur ».
Et il est paru donc en 1945.
C'est ça, après la Libération.
C'est Maurice Nadeau qui avait signé dans le journal Combat la première critique de ce livre, Le Tricheur, en février 1946. Le titre de son article, c'était « Un nouveau roman de l'absurde ». Et Nadeau comparait ce livre avec L'Étranger de Camus qui avait paru quelques mois auparavant. Vous voyez, vous, la résonance entre ce premier roman de Claude Simon et puis le livre de Camus ?
Alors d'abord, je suis contente que vous citiez Nadeau, puisque je comptais bien le faire, évidemment. En effet, Nadeau a été le premier article que Claude Simon ait eu absolument
dans sa vie. On consacrera bientôt une émission, d'ailleurs, à Nadeau. N'en disons pas trop tout de suite.
C'était dans Combat, hein, c'était dans le... Et alors, en effet, à part ça, bon, Nadeau dit des choses très bien, il dit que vraiment c'est un grand écrivain, même si tout n'est pas égal dans le livre, mais la comparaison avec Albert Camus, je pense qu'elle n'est pas juste, et d'ailleurs Claude Simon le pensait aussi, c'est-à-dire que Claude Simon n'a jamais été du côté de l'absurde. Pour lui, c'est absurde de penser que le...
Pourtant, pour lui, le monde est absurde.
Le monde est absurde, mais il trouvait que la manière dont Sartre et Camus parlaient de l'absurde était une forme... Il a parlé de péplum, universitaire, de péplum, littéraire. C'est-à-dire que tout ce côté grandiloquent, tout ce côté tragique, il trouvait que c'était pareil. C'était se payer de mots, c'était jouer au littéraire. Alors que... Histoire, on parlait d'histoire et littérature à l'instant. Je crois que ce qui est très fort chez Claude Simon, c'est que il s'est, chez lui, la somme des sensations de chaque individu est toujours plus que le seul récit collectif. Alors que parler de l'absurde, c'est d'une certaine manière faire une sorte de récit collectif. Donc, et puis c'était pas juste non plus parce qu'en fait, Le Tricheur, il l'avait écrit avant la guerre. Il était pratiquement terminé lorsqu'il est parti à l'armée. Et il s'est retrouvé, donc, comparé à Camus,
alors
à l'étranger
qu'il
Camus.
Qu'il
n'avait pas lu L'Étranger. Qu'il était donc sous tout à fait d'autres... Et que, effectivement, comme on l'a entendu à l'instant, il avait, lui, accepté de ne pas être publié pendant l'occupation parce qu'il considérait que c'était pas bien de faire ça, c'était pas éthique.
Oui. Je fais une parenthèse parce que quand vous dites qu'il ne voulait jamais, Claude Simon, se payer de mots, est-ce pour cette raison, selon vous, que dans les entretiens qu'il a donnés à la radio, parce que c'est ceux qu'on a réécoutés pour préparer cette émission, finalement, il répète toujours un petit peu la même chose, comme s'il ne pouvait dire que ce dont il était absolument certain, et finalement, ça fait assez peu de choses qu'il répète sans cesse d'un entretien à l'autre.
Vous savez sans doute que Claude Simon détestait les émissions radio et encore plus les émissions télévisées. Il en a fait très peu. Parce qu'il était très mal à l'aise. Non, mais parce qu'il était... je crois que c'est Solers qui a très bien peint Claude Simon. Il dit, il était clair, net, comment il dit, généreux, je crois, et fermé, chaleureux et fermé. C'est exactement ça. C'est très chaleureux, premier abord, mais ensuite aussitôt se retirant, très réservé et mettant une certaine distance. Et il détestait être en scène d'une certaine manière. Donc autant c'était quelqu'un de vraiment adorable dans le privé, autant dès qu'il était sur une scène audio ou télévisée, il était très très mal à l'aise. Et donc il se cantonne effectivement dans les choses sûres et certaines, et il a tendance, c'est vrai, à répéter les mêmes choses.
Alors il y a donc ce premier roman, Le Tricheur, c'est au Sagittaire, ensuite il publiera L'Accord de Raid en 1947, puis chez Calmann Lévy, Gulliver, puis Le Sacre du Printemps en 1954. Mais tous ces romans-là, ils ne figurent pas dans les deux volumes de la Pléiade, dont on parlera d'ailleurs demain avec Alastair Duncan. En gros, c'est comme si tous ces livres-là ne comptaient pas et que son œuvre ne commençait véritablement qu'en 1957 avec son roman Le Vent. Qu'est-ce qu'il trouve à ce moment-là avec ce roman, Mireille Calcaire?
Alors d'abord, qu'est-ce qu'il ne trouve pas avec les quatre autres? C'est pas tout à fait non plus ça. C'est-à-dire qu'il aurait accepté que ses quatre premiers romans paraissent dans la Pléiade si la Pléiade avait été des œuvres complètes et chronologiques, ce qu'elle n'est pas. Parce qu'il me disait, à ce moment-là, on verrait la progression. Mais ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on mette l'accent sur ces quatre romans qui sont plus simples, entre guillemets, à lire parce qu'ils sont un peu plus linéaires et un peu plus explicites. Mais comme il dit à l'époque, j'étais assez naïf et donc j'avais tendance à être encore un peu grandiloquent. Il trouve que, au moment du vent, il a compris que écrire, c'était précisément construire. C'était construire, c'était travailler la langue, creuser la langue, et que c'était comme cela que l'on créait le réel. On allait, en somme, de l'écriture vers la pensée, de l'écriture vers les images, et non pas l'inverse.
Alors ce nouveau roman, Le Vent, paraît en 57, c'est une année assez incroyable pour l'histoire de la littérature. Il y a Le Bleu du Ciel de Bataille, Sur la route de Kerouac, Les mythologies de Barthes, L'espèce humaine d'Anthelme, D'un château l'autre, fin de partie, enfin c'est une année folle. Et ce roman paraît en 57, au moment aussi où se crée l'école du nouveau roman. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va finalement l'agréger, il en est d'ailleurs d'accord, à cette école-là, Mireille Calgruber.
Il arrive chez Minuit. Et en effet, Minuit, il y arrive par Rob Grillet, qu'il a rencontré un peu par hasard aussi. Et c'est vrai qu'à partir de là, il trouve, comme il dit, lui, il a déjà par rapport aux autres, hein, par exemple là, par rapport à Rob Grillet, il a déjà derrière lui quatre romans, il est plus âgé que les autres également. Il a cette expérience de la guerre, de la captivité, il a eu la tuberculose, enfin il a eu énormément de difficultés toutes ces années-là.
Il a tout lu aussi.
Il a tout lu, il a lu surtout beaucoup de modernes, de contemporains, et aussi. Et donc, effectivement, il trouve des affinités avec les autres. Mais c'est plutôt sur, disons, ce qu'ils ne veulent pas, qu'ils sont d'accord, plutôt que sur un projet commun. Et ça n'est pas vraiment une école, le nouveau roman. Ça n'a jamais été une école, ils n'ont pas de manifeste, ils n'ont pas de... C'est plutôt des rencontres avec des points communs. Et c'est vrai que, tout en étant très différent, je pense que ce qui le différencie beaucoup, c'est précisément la subjectivité, l'émotion, ce que Rob Grillet refuse, n'est-ce pas, le fait que tout se passe sous les mots, le fait qu'on est dans la sensorialité, donc quand même il y a cette question du sujet qu'il n'a jamais abandonné, alors que Rob Grillet fera le coup en 1984 avec Le Miroir qui revient en disant « je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi ». Mais jusque-là, il refusait. Donc il est quand même très en porte-à-faux aussi. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas dans les coulisses, ça ne se passe pas toujours si bien entre eux.
Non, et notamment avec Jérôme Lindon, où c'est parfois un petit peu difficile, non?
Aussi, oui. Mais c'est-à-dire, c'est Jérôme Lindon et Rob Grillet. Il faut voir aussi que Jérôme Lindon et Rob Grillet sont des gens très parisiens qui jouent le jeu des salons parisiens et que Claude Simon ne les absolument pas. Il n'a jamais été mondain, de même qu'il n'a donc pas été non plus médiatique, donc il est toujours un petit peu en retrait. C'est plutôt, il est plus proche de quelqu'un comme Pinget. Lui, il se sentait bien avec Pinget et relativement bien avec Butor.
Alors là, les livres vont s'enchaîner, tout de même sous cette étiquette-là, du nouveau roman.
Ah oui, mais il a été toujours très solidaire. D'ailleurs, oui. Il a dit, moi je veux être solidaire. Oui. Mais il reprochait aux autres de ne pas l'être toujours avec lui.
Alors en 58, il y a l'herbe. En 60, c'est donc le fameux La Route des Flandres. 62, le Palace. Histoire, après c'est peut-être un roman qu'on connaît un petit peu moins. Les corps conducteurs aussi. Est-ce qu'il y a une évolution très nette ou est-ce que on est toujours dans l'approfondissement de la même méthode, du même travail sur la mémoire
Et c'est aussi différent parce que ce sont chaque fois des formes différentes. C'est vrai, ce sont des formes différentes. Je crois qu'il est de plus en plus rigoureux. Et c'est pour Histoire qu'il dit « Là, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais raconter ». Donc là, il part vraiment un petit peu comme des papiers collés, comme des assemblages. Il faut penser aussi que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de collages. Et c'est de la même manière qu'il construit également ses romans. Oui. Donc, c'est, et chaque fois, on a une forme différente, en effet.
On parle beaucoup d'une écriture fragmentaire. Ça vous semble juste ou
oui,
pas ?
Oui, je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste parce que, d'abord, je le vois bien dans les manuscrits, c'est quelqu'un qui écrit des morceaux. Et il y a des morceaux en attente. Il y a des morceaux qui n'ont jamais été utilisés, qu'on peut trouver encore, et d'autres morceaux donc qu'il a gardé quelquefois des années, puis qu'il utilise parce qu'à un certain moment, il peut construire une mosaïque, une mosaïque mais toujours pas terminée. Il y a toujours le côté inachevé, et donc la possibilité de reprendre et de rebattre les cartes autrement.
Mais en général, quand on parle d'écriture fragmentaire, on parle d'une forme d'aporie. On a l'impression qu'il manque des détails, alors que là, c'est plutôt le contraire. C'est un fragment fait de millions de fragments, et il y a plutôt profusion, en fait, qu'aporie dans l'écriture de Claude Simon. On a l'impression que ça jaillit de partout, les images, les couleurs, les sensations.
C'est vrai, alors il y a ce jaillissement, vous avez tout à fait raison, et cette effervescence, mais il y a aussi le détail. Le détail fait qu'on s'y perd, il y a une sorte d'aporie par profusion, parce qu'on ne conclut jamais. Je pense que vous parliez d'Histoire qui se termine par « moi » point d'interrogation.
Par exemple.
Et presque tous ces romans sont ainsi. Le Jardin des Plantes, il y a une sorte de générique d'un film qui pourrait être fait, qui ne sera jamais fait, où on reprend les choses. Donc c'est plutôt ce vertige des possibles et le fait que le biographique est quelque chose de... C'est un devenir biographique. Il n'y a pas la biographie ou une biographie, mais un devenir biographique, et il n'y a pas de devenir biographique sans... le compte tenu des mots, comme dit Ponge d'une certaine manière. Et tout ça est lié, et tout ça fait une sorte de manège.
Mais sa biographie, à partir de cette époque-là, à partir du moment où il commence vraiment à entrer chez Minuit, sa biographie, c'est surtout son œuvre. C'est une vie à écrire à partir de là, non ?
C'est une vie à écrire, mais avant, c'était une vie à peindre et aussi à écrire, puisque, en fait, il écrivait, pour ses tableaux, il écrivait d'abord des descriptions de couleurs, des descriptions de formes. Mais vous avez raison, de plus en plus, sa vie, son écriture, c'est pareil.
Avec une espèce d'ascèse incroyable. Lui qui n'aimait pas la discipline à Stanislas, on a l'impression qu'il s'oblige à une discipline en termes de littérature qui est folle.
C'est très étonnant chez lui, comme il y a à la fois un côté relâchement, un côté effectivement oisif. Il aime
sensitif.
Il aime perdre son temps, se promener, et puis au contraire une férule, une exigence extrême. Et il a toujours été.
C'est le père et la mère, ça.
Les deux à la fois. Peut-être la fusion des deux, c'est possible. Mais en tout cas, pour certaines choses, il était absolument intransigeant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut plus ça va et plus il écrit longuement. Le Jardin des Plantes, moi je me souviens, il me l'avait montré en me disant « Ah, c'est fini », il a encore mis 4 ans avant de le publier. Et la plupart de ses livres, les Géorgiques, il commence à l'écrire dans les années 70. Et tout en écrivant d'autres livres, il continue à écrire les Géorgiques.
Tout cela couronné par le prix Nobel de littérature.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur les sentiments que peut éprouver un lauréat distingué par l'Académie suédoise, l'un de mes confrères Nobel, comme il nous appelle, le docteur André Lvoff, dans une lettre qu'il a eu la gentillesse de m'adresser, c'est « on ne peut mieux expliquer ». Et si j'essaie d'analyser les composantes multiples de cette satisfaction par certains côtés puérils, je dirais qu'il s'y mêle une certaine fierté qu'au-delà de ma personne, l'attention se trouve ainsi attirée sur le pays qui, pour le meilleur et malgré le pire, est le mien. Et où il n'est pas mauvais que l'on sache que, en dépit de ce pire, existe comme une obstinée protestation, dénigrée, moquée, parfois même hypocritement persécutée, une certaine vie de l'esprit qui, en soi, sans autre but ni raison que d'être, fait encore de ce pays un des lieux où survivre, indifférente à l'inertie ou parfois même à l'hostilité des divers pouvoirs, quelques-unes des valeurs les plus menacées aujourd'hui.
Quelques-unes des valeurs peut-être encore menacées. D'ailleurs, aujourd'hui, Mireille Kalgruber, quel était son rapport à la France et à cette idée qu'il avait de la culture qu'on a dans ce pays ?
Il a toujours pensé que la littérature pouvait beaucoup. Moi, je suis très impressionnée par ce qu'il a dit une fois. Il a dit que il n'y a pas de progrès en littérature et que on n'a pas ces découvertes extraordinaires comme on a dans les sciences, mais que finalement l'homme s'est modifié chaque fois que un sculpteur ou un peintre ou un écrivain a dit le monde d'une façon tant soit peu nouvelle.
Ce qu'il a fait.
Et c'est ce qu'il a fait lui. Et que même un illettré qui ne lira jamais Flaubert, Joyce, etc., il vit dans une société qui n'aurait pas été telle qu'elle est s'il n'y avait pas eu Flaubert, Joyce, etc. Et ça, je trouve ça très fort et très beau.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de son discours de réception pour le prix Nobel en 1985. Il avait déjà failli l'avoir 2 ans plus tôt, mais c'est William Golding qui l'avait eu à sa place. Et puis, il avait failli ne pas l'avoir en 85 à cause de la politique, avec l'affaire du Rainbow Warrior.
Qui avait, voilà, exactement. Et donc, effectivement, il avait failli ne pas l'avoir pour des questions politiques et pas du tout littéraires.
Bon, mais il s'en amusait beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir ce prix Nobel pour lui?
Rien et tout. Rien, parce que je crois que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ascétique. Il n'a pratiquement pas touché à l'argent de son prix Nobel. Il a continué à vivre tel qu'il était, tel que c'est chez lui. C'est-à-dire, c'était très sobre, très, très simple. Et il a continué à écrire comme s'il n'avait pas le prix Nobel. Je veux dire, il a eu la même exigence. Il s'est pas du tout reposé sur ses lauriers. Et il a écrit de grands livres comme L'Acacia, Le Jardin des Plantes et Tramway, qui sont, à mon avis, des chefs-d'œuvre chaque fois. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que rien n'a changé. Tout a été de plus en plus fort. Et tout a changé parce que, je crois que ça lui a quand même donné une forme de sérénité. Je sais bien que c'est quelqu'un qui n'a jamais été serein, qui a toujours été très perturbable, comme il disait, toujours très incertain. Mais malgré tout, je crois que moi, je l'ai connu après le prix Nobel. Et je pense que j'ai connu un homme qui avait une certaine sérénité. Et c'était très beau de voir que ça lui avait quand même apporté une sorte de reconnaissance dont il avait beaucoup souffert. Très longtemps, il a souffert de ne pas être reconnu, de ne pas gagner sa vie en écrivant, d'être méconnu, de ne pas être lu, de ne pas être beaucoup lu.
Alors comment vivait-il justement un certain nombre de remarques, de critiques assez négatives, comme celle par exemple d'Angelo Rinaldi, longtemps rédacteur en chef du Figaro littéraire, qui avait titré « Le Nobel et la bête », et qui considérait avec des termes très durs finalement cette œuvre.
Mais malheureusement, Rinaldi n'était pas le seul. Le prix Nobel en France, le prix Nobel de Claude Simon en France n'a pas été si bien reçu que cela. Beaucoup ont dit « Ah bon, mais qui est-ce ? Ah bon, on l'a donné à celui-là ?» Enfin, il y avait cette idée que le nouveau roman c'était illisible, que Claude Simon faisait partie du nouveau roman. Enfin, on avait beaucoup d'idées préconçues sur lui et c'est vrai que c'est un Nobel qui est passé un petit peu inaperçu ou bien qui a été très méchamment critiqué.
Pas inaperçu de tout le monde, hein. Quelqu'un comme Gilles Deleuze par exemple,
oui, heureusement,
l'a remarqué.
Sûr. Oui, ouais. Ses amis bien sûr, mais je veux dire, c'était quand même étonnant de voir cette levée de bouclier.
Mais il a quand même trouvé un public finalement à la fin de sa vie, un public de manière presque inattendue. Ça s'est vendu finalement, les livres de Claude Simon.
Oui et non. Il dit que après le Nobel, c'est retombé.
Enfin, L'Acacia, pas... Le Tramway, quand même, c'est des livres qui se sont davantage vendus que les autres, non ?
D'accord, mais enfin, c'est pas non plus des best-sellers. Mmh. Mais surtout, ce qui était étonnant, lui, il s'étonnait toujours que il soit considéré comme difficile à lire. Parce que lui pensait que, c'est vrai, c'est pas, Claude Simon n'est pas un intellectuel. Il ne commençait pas par des concepts. Il bricolait. Il a très bien raconté comment il bricole ses textes et donc il comprenait pas que on puisse pas partager cette approche très très sensitive, très sensorielle de son œuvre.
Et sur cette question de la difficulté de lire, on commencera l'émission par cela demain avec Alastair Duncan. Merci beaucoup Mireille Gruber. Pour aller plus loin, je renvoie évidemment sur votre biographie de Claude Simon, sous-titrée Une vie à écrire, paru au Seuil en 2011. On peut lire aussi de vous le roman La Consolation, paru aux éditions de La Différence en 2010. Et aussi la dernière pièce inédite de Claude Simon, c'est vous qui l'avez retrouvée et éditée, elle s'appelle La Séparation. À 17h sur France Culture, vous retrouverez la série documentaire. Demain, on sera, je l'ai dit, avec Alastair Duncan pour parler de l'œuvre de Claude Simon. Mais tout de suite, c'est une nouvelle semaine de poésie proposée par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Cette semaine, Voyage dans la Blanche. La collection chez Gallimard, hein, pas la poudreuse de saison, au contraire, bien au chaud, dans la Blanche, prestigieuse édition, siégeant à côté de la non moins prestigieuse et indispensable Poésie Gallimard Poche, qui, elle, se caractérise par ses préfaces mémorables, des notes creusées, des postfaces époustouflantes, précieuses surtout. Non, ouvrir la Blanche Poésie, c'est une aventure sans guide. C'est pas du hors-piste quand même, tout y ressemble à la poésie. Écoutez, comme un qui retourne vers la maison abandonnée et se rend compte à l'approche, sans même l'épreuve du seuil, qu'il n'a jamais cessé de l'habiter, en pensée comme en rêve, tout au long du voyage qui le menait ailleurs, vers cet oubli bruyant qu'on appelle le monde, j'ai fait retour au pays natal, ouvert aux quatre vents, sans drapeau et sans haine, ce lieu de nulle part aux fondations errantes où tout a commencé, la parole, les abords lumineux de l'absence, la forme inexacte de ton visage, là on est dans « Je n'ai jamais voyagé », livre d'Emmanuel Godot. J'ai retrouvé l'usage du silence, je suis redevenu poète, sans savoir si j'appelais poésie le lieu lui-même, ses parages, les sentiers inaperçus, l'attente évanouie, ma mémoire capricieuse, la promesse toujours nouvelle. Ô poésie, c'est une citation d'Yves Bonnefoy en exergue, ô poésie, je ne puis m'empêcher de te nommer par ton nom que l'on n'aime plus parmi ceux qui errent aujourd'hui dans les ruines de la parole. Je prends le risque de m'adresser à toi directement, comme dans l'éloquence des époques où l'on plaçait, la veille des jours de fête, au plus haut des colonnes des grandes salles, des guirlandes de feuilles et de fruits. Dans « Je n'ai jamais voyagé », Emmanuel Godot ouvre son journal de poésie année 2009 à 2014. « J'ai pris ce qui me restait de mots et je me suis mis en chemin. Sur le chemin, il y a les pierres qu'on ne voit pas, le chemin qui n'en finit pas de se perdre dans sa lenteur, la lenteur qui n'en finit pas de se perdre en chemin. » C'est un extrait de « Je n'ai jamais voyagé ». D'ailleurs, il est conseillé de lire ostensiblement « Je n'ai jamais voyagé » en prenant votre TGV ordinaire. Ça vous attire des regards, plus si accointance. Et curieusement, on peut noter aussi que ça marche dans les inouïs. C'est incroyable, mais ça marche. Le poète, c'est ce type qui est là-bas, de l'autre côté de ta vie. Il bat des bras comme un oiseau devenu fou. À force de parler des amours intenables, cela fait des calligraphies d'épileptiques au bord du paysage. De temps à autre, pour rire, on lui demande de faire un peu moins de bruit. Alors il ajoute à sa danse un roulement d'yeux incompréhensible. Regarde, on dirait qu'il crie dans le silence. C'est le moment où l'on peut retourner dormir dans nos vies sans feuillage, avec la conscience apaisée des semeurs.
Jacques Bonafé, merci.